Et on va voir dans une épître, cette épître, c'est l'épître aux Philippiens. Alors pourquoi l'épître de Paul aux Philippiens? Parce que l'épître de Paul aux Philippiens est appelée l'épître de l'amour. C'est l'épître de l'amour. Et quand on étudie, quand on regarde le contenu, avec la naissance aussi, on va s'arrêter dans le livre des Actes des Apôtres, on voit que c'était l'Église. L'apôtre Paul avait une affection particulière pour cette Église. Il aimait particulièrement cette Église. Et regardez par exemple dans l'Épître de Paul aux Philippiens, au chapitre 4, au verset 15 et 16, il est dit ceci. C'est à la conclusion quasiment. Vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'Évangile, lorsque je partis de la Macédoine, aucune église de la Macédoine n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Vous fûtes les seuls à le faire, car vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique à deux reprises de quoi pourvoir à mes besoins. C'est une église vraiment que l'apôtre Paul avait à cœur. Et donc, quand on enregistre le contenu, quand on détaille le contenu, on se rend compte que vraiment il aimait cette église. Et je voulais donc partager un petit peu ces quelques pensées concernant cette église que l'apôtre Paul aimait. Il faut savoir une chose, c'est que quand Paul écrit aux Philippiens, l'apôtre Paul est en prison. Il est en prison, on retrouve ces deux versets juste pour vous donner une petite introduction. Après, on va s'arrêter sur la naissance de l'Église. Dans Philippiens chapitre 1, verset 7, par exemple, il est dit ceci. « Il est juste que je pense ainsi de vous tous, parce que je vous porte dans mon cœur, soit dans mes liens, soit dans la défense et la confirmation de l'Évangile, vous qui participez à la même grâce que moi. » Voyez. Donc il parle de ses liens, il est en prison. Il y a un autre verset aussi, c'est le verset 13, toujours dans ce même chapitre, il dit ceci, en effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. Donc il est en prison, il est à Rome, et il écrit cette lettre d'amour aux Philippiens, qui sort un petit peu des autres interventions de Paul dans les épîtres. Pour mieux comprendre, il faut regarder la naissance de l'église de Philippe. Je ne sais pas si vous vous rappelez, ça se retrouve dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 16. Et là, on va s'arrêter quand même, il y a tout un enseignement. Et ensuite, on va revenir sur l'épître de Paul aux Philippiens. Chapitre 16, vous savez, c'est ce passage où l'apôtre Paul a le désir. Il est convaincu qu'il faut qu'il aille en Asie. Chapitre 16, et vous savez qu'à deux reprises, il a été arrêté par le Saint-Esprit, et une fois par l'Esprit de Jésus. Regardez dans Actes chapitre 16, verset 6. Il ne pensait pas du tout à l'Europe. Vous savez que la première église qui a été fondée en Europe, c'est l'église de Philippe, chez les Philippiens. Hein. Et donc, il ne pensait pas du tout aller en Europe. Et là, le texte nous dit qu'ayant été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, il traversait la Phrygie et le pays de Galatie. Et donc, il était déterminé à aller en Asie. Il était déterminé à aller. Mais la Bible dit... Et ça m'a interpellé, c'est que le Saint-Esprit l'a empêché d'aller. Hein? Je me faisais déjà une réflexion. Si on dit, on nous dit d'aller dans tel endroit et on va dire, moi le Saint-Esprit m'a dit de pas y aller. Alors ça va commencer à grincer des dents, etc. Et c'est un petit peu ce qui s'est passé. Ensuite, il se dit, je vais aller ailleurs, je vais passer dans un autre endroit. Verset 7, arrivé près de la Mysie, il se disposait à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Et là, j'ai un petit peu buté. D'un côté, il y a le Saint-Esprit qui empêche. Et de l'autre côté, il y a l'Esprit de Jésus. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, je me suis posé la question, qu'est-ce que c'est cet Esprit de Jésus? Il y a le Saint-Esprit et il y a l'Esprit de Jésus. Alors, je vous rassure, il n'y a pas une grande révélation. C'est le même Esprit. Hein, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit, tout simplement, quand on étudie, quand on décortique, quand on fait la synthèse, c'est le Saint-Esprit. L'Esprit de Jésus, c'est le Saint-Esprit qui nous donne une direction bien précise. Je ne sais pas si vous... Une mission bien précise. Qui a une mission bien précise ici? Normalement, on doit tous lever la main. Eh oui! Parce que l'ordre de Jésus, c'est de dire dans l'évangile de Matthieu, dans l'évangile de Marc, dans le livre des Actes des Apôtres, allez, faites de toutes les nations, hein, allez, faites de toutes. Ça, c'est une mission bien précise. Alors, il y a le Saint-Esprit, mais il y a aussi cette direction que Dieu nous donne. Hein, et on sait que cette direction, c'était pour traverser la mer et pour aller en Europe et pour aller dans cette ville de Philippe. Jésus le dit dans Matthieu chapitre 28, verset 19, allez faites de toutes les nations. Dans Marc chapitre 16, verset 15, il dit allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Dans Actes chapitre 1, verset 8, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem. Ça, c'est, on a tous une mission bien précise, hein. C'est de faire de tout au bagne des disciples. Dites amen pour la dernière, comme ça je partirai avec le sourire. De toutes les nations. Il n'y a pas une nation que le Seigneur n'aime pas, il aime toutes les nations. Il n'y a pas une tribu, une race que Dieu n'aime pas, il nous aime tous du même amour. Amen. Donc là, l'apôtre Paul est là, et en fait, il n'y va pas. Il n'y va pas en Asie. Alors l'Asie, c'est là quand il parle de l'Asie, c'est la nouvelle, c'est la Turquie. Hein, au jour d'aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, c'est la Turquie. Et bon, il a été empêché. L'esprit de Jésus n'a pas voulu qu'il aille encore en Asie parce que Dieu avait un plan, une direction bien précise pour cet homme. Et vous savez que il va aller près de dans le nord de la Turquie, à Troas, là, dans un port, et c'est là qu'il va avoir la vision. Vous vous rappelez de ce passage? Il va avoir la vision de ce Macédonien, c'est-à-dire de cet Européen. Et pendant la nuit, il a une vision. Et moi, je m'imagine aussi, on me dit d'aller là, je dis non, le Saint-Esprit ne veut pas que j'aille. On me dit d'aller là, non, le Saint-Esprit ne veut pas que j'aille. Mais par contre, j'ai une vision. Alors là, quand vous dites ça, oh là là, j'ai une vision. J'ai une vision, il faut que je traverse la mer. Vous vous rendez compte un petit peu le contexte dans lequel il se trouve. Il a cette vision du Macédonien qui crie, viens, traverse la mer et sauve-nous. Et ça a été quand même l'apôtre Paul qui a été là à mener l'évangile et qu'il y a eu la première naissance de l'église de Pentecôte. Amen. Amen pour la Pentecôte. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Bien, il obéit. Hein, il part et il arrive, il traverse la mer. Et il arrive là en Macédoine, dans cette ville de Philippe. Et là, il y a tout un contexte. On sait ce qu'il va. On va assister au premier baptême européen. Au premier baptême européen, il est dit ceci, Actes chapitre 16, verset 13, le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Il n'y avait pas de synagogue. Quand on étudie un petit peu en Grèce, il y avait beaucoup de synagogues, mais là, dans cette ville de Philippe, il n'y en avait pas. Il y avait juste un rassemblement de sœurs, de sœurs qui priaient tout simplement, qui avaient besoin de connaître Jésus, de faire la paix avec Jésus. Ça a été dit à deux reprises dans les dons spirituels. Je crois qu'il ne faut pas les laisser, il ne faut pas les oublier. Dieu a appelé plusieurs personnes à marcher, à s'engager dans les voies de Dieu. Vous vous en souvenez? Voilà, juste un petit rappel. Et là, ils sont en train de prier et l'apôtre Paul a su qu'au bord de cette rivière, il y avait quelques sœurs. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va prier avec eux et il va apporter la parole. Il va y avoir une première conversion. Vous vous rappelez comment elle s'appelle, la première convertie? Lydie. Lydie qui était marchande de pourpre. Pas de poulpe, de pourpre. Hein. Et là aussi, je relisais le texte, je me dis, mais quand même, VRP, ça se dit VRP encore? Hein? Non? Ça se dit? Commercial, voilà, merci. Commercial. Elle était commerciale parce qu'il est dit ceci. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu et elle écoutait. Point. Le Seigneur lui ouvrit le cœur. Elle était marchande de pourpre. Hein? Donc, c'était des tissus de couleur pourpre. Et elle venait de cette fameuse ville de Thyatire. Je dis, tiens, ça m'a de suite interpellé. Vous vous rappelez que le mot Thyatire apparaît dans la parole de Dieu? Allez, les théologiens. Elle apparaît où? Dans le livre de l'Apocalypse. Vous savez, dans ces sept églises où Jean dépeint les sept périodes jusqu'à notre période. Hein, d'après les écrits, on est dans la période de Laodicée et de Philadelphie. Hein. Il y a l'église infidèle qui correspond à l'église de Laodicée et à l'église fidèle qui correspond à l'église de Philadelphie. Hein, c'est dans le... Mais là, il est question de Thyatire. Et Thyatire, ça correspond à la quatrième... comment dirais-je je cherche mon mot là. Période, merci. Quatrième période de l'histoire de l'église. Et Jean écrit à l'église de Thyatire. Ça correspond à l'église de la tradition. Hein? Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais là, il rappelle que dans cette église de Thyatire, je me suis souvenu, je vais peut-être leur souligner, qu'il y avait, ils étaient bien, peut-être que nous, si on avait eu ça, on se serait déjà contenté, mais Dieu va, le Seigneur voit toutes choses, il connaît toutes choses, il est omniscient, il est omniprésent. Amen. Et donc, il dira à cette église, je connais tes œuvres, c'est dans le chapitre 2 au verset 19, je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais, vous savez que sur les sept périodes de l'histoire de l'Église, sur les sept, il y a cinq mais. Et il n'y a que deux églises à qui le Seigneur ne fait pas de reproche. Hein? Mais là, il leur dit ceci, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à la débauche, etc., etc. Je lui ai donné du temps afin qu'elle... Et ça aussi, c'est important aussi. Des fois, le Seigneur, c'est le plus patient. Vous êtes patient, vous ? Dieu est patient. Et quand il parle, j'ouvre une parenthèse, excusez-moi, je vais y revenir, je ne vais pas m'égarer. Mais quand il parle comme ça au travers de dons spirituels, c'est qu'il est patient. Et qu'il veut intervenir dans la vie d'un jeune homme, d'une jeune fille, d'un homme adulte. Il veut intervenir. Et là, c'est ce qu'on retrouve avec ce verset. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repente. Le Seigneur, il nous donne toujours du temps. Et elle ne veut pas se repentir de sa débauche. Vous voyez ? Mais il donne du temps. Il nous donne du temps. Il est patient. Il est patient avec nous. Il veut qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Amen. Et quand on revient à notre texte, c'était juste une petite ouverture là, dans Acte chapitre. Cette femme, elle va se convertir. Lydie, elle avait traversé, elle, l'Asie. Hein, Thyatire, ça se trouve en Asie. Elle avait déjà fait le voyage. Elle arrive dans cette ville, elle arrive en Europe pour vendre certainement ses produits. Elle amène sa famille. Il y avait beaucoup de migration déjà à l'époque. Hein. Ils n'ont pas attendu le 20e siècle, le 21e siècle pour immigrer, mais il y avait déjà des migrations. La preuve, c'est que cette femme avait quitté cette ville de Thyatire pour venir en Europe. Et là, le texte nous dit que alors l'apôtre Paul, il saisit l'occasion. Je ne vais pas être trop long parce que je voudrais aller dans les Épître de Paul aux Philippiens, il saisit l'occasion, il parle de Jésus et elle se convertit. Il est dit ceci, le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle soit attentive à ce que disait Paul et lorsqu'elle eut été baptisée avec sa fille. Il y a eu un premier service de baptême, Lydie avec sa famille et ensuite on sait ce qui s'est passé. Et c'est toujours comme ça, d'ailleurs on le dit quand on fait des études de baptême, pour ceux qui vont s'engager, je ne sais pas s'il va y avoir un service de baptême, mais on le dit souvent, faites attention parce qu'on les avertit, c'est notre rôle. Hein. Soit avant, soit après, vous risquez de connaître des difficultés parce qu'il y en a un qui n'est pas content. D'ailleurs il est jamais content. Il est jamais content, hein. Il veut toujours nous faire tomber, mais souvent, ça arrive dans les jeunes conversions, peut-être une semaine avant ou 15 jours avant, ils connaissent des difficultés, des combats, et ils viennent vous dire, mais depuis que j'ai décidé, vous l'avez déjà entendu ça? Depuis que j'ai décidé de me donner au Seigneur, j'ai que des problèmes, que des difficultés, etc. Et donc, il faut les encourager. Il faut les encourager. Et c'est ce qui s'est passé. L'apôtre Paul, donc, est dans un élan de bénédiction, de réveil. Et là, le texte nous dit qu'il y a la femme avec un esprit de Python. Vous vous rappelez? Juste après ce service de baptême, cette femme qui avait un esprit de divination. Et l'apôtre Paul, j'élague, hein. Et l'apôtre Paul, à un moment donné, il est fatigué. Et il va chasser le démon. Et à cause de cela, qu'est-ce qui se passe? Il se retrouve en prison. Et alors, il dit oui au Seigneur, il a la vision, il veut aller en Asie, le Saint-Esprit l'empêche, et puis il se retrouve en prison. Il aurait pu dire, mais quand même, j'étais parti pour bien faire, il se retrouve en prison. Et vous savez ce qui se passe, là dans la prison, Paul et Silas, qu'est-ce qu'ils font? il prie et il chante des cantiques. Amen. On n'entend pas trop souvent ça dans les prisons. Il y a beaucoup, on était à la pastorale la semaine dernière, lundi dernier, et puis il y a des frères qui sont aumôniers, et je leur demande un petit peu, je dis, moi, je serais incapable d'être aumônier. Les gars, ils passent plus de temps en prison qu'à l'extérieur, parce qu'ils sont là, ils sont pris là-dedans, et ils témoignent, ils me disent, mais non, il y a beaucoup de travail. Et je dis, mais tu n'as pas peur, des fois, il y a des gens qui sont condamnés, des violents, et il y a une grâce particulière, hein. Il faut vraiment être appelé. Enfin bref, là, ils sont dans la prison, ils chantent, les prisonniers les entendent, vous savez ce qui se passe, et puis Dieu descend. Je ne veux pas vous faire une prédication d'évangélisation, mais quand Dieu descend, ça se sent, ça se voit, ça s'entend et ça se communique. Amen. Et c'est ce qui s'est passé là. Dieu est descendu, il y a tellement de choses à dire là. Dieu est descendu, les portes sont ouvertes. Amen. Dieu ouvre les portes. Hein. Il ouvre les portes, il ferme les portes. Des fois, on se sert d'hommes et de femmes pour... tu ne peux pas un peu m'aider dans m'ouvrir une porte? Quand Dieu ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Amen. Et là, les portes s'ouvrent et le gardien de prison, il se dit, mais je vais me tuer, moi. Ils vont tous se sauver. Hein. C'est même pas prison break, là. Là, ils sont tous... Et Paul dira, non, on est tous là. Et le geôlier avec sa famille va se convertir. Et le texte nous dit que dans la nuit même, hein, il donne sa vie au Seigneur. Et le texte nous dit qu'ils vont s'engager par les eaux du baptême. Amen. Et Paul est toujours en prison. Et je voulais juste relever un détail quand même. Comme quoi que Paul, c'était un homme qui avait du caractère. Hein. Il est en prison. Ils décident de le relâcher parce qu'ils se sont rendus compte qu'en fait, il avait deux nationalités. Vous vous rappelez ? Il était hébreu et il était romain. Et ils se sont rendus compte qu'ils s'étaient trompés. Et quand ils ont voulu, j'élague là aussi, quand ils ont voulu le relâcher, Paul, il a dit, non, je reste dans la prison. Ça n'existe pas. Il a dit, je reste, verset 37, regardez, je crois que je te l'ai donné, je l'ai donné au frère. Mais Paul dit au lecteur, après nous avoir battus de verges publiquement et sans jugement, nous qui sommes romains, ils nous ont jetés en prison et maintenant, ils nous font sortir secrètement. Il n'en sera pas ainsi qu'ils viennent eux-mêmes nous mettre en liberté. On reste là. On ne sort pas de la prison. Vous vous êtes trompés, vous voyez, un homme de caractère. C'est à partir de là, donc, qu'il y a eu la naissance de l'église de Philippe. Paul, je le disais tout à l'heure en introduction, il se retrouve en prison et il écrit cette lettre d'amour. Rappelez-vous, hein, et les Éphésiens, c'est la lettre d'amour des épîtres. Dans les autres épîtres, il y a aussi de l'affection et de l'amour, mais il y a une particularité dans cette épître de Paul aux Philippiens. On va s'y arrêter, si vous voulez, maintenant, à partir du chapitre 1er. Et c'est là qu'on voit vraiment, et c'est ce que je veux vous laisser, hein. Moi, je vous aime. Je vais pas dire comme Paul, vous allez plus voir mon visage. Et non, c'est pas ça. Mais vraiment, j'ai passé du bon temps avec vous. Hein. Je crois que Dieu a béni l'Église. Quand je vois au début le nombre qu'on était, je vois maintenant. Et encore, c'est pratiquement période de vacances. Et je sais que Dieu va continuer à vous bénir. Hein, parce que Dieu aime l'Église locale. Tout est basé dans le Nouveau Testament sur l'Église locale. Il y en a qui viennent vous dire, allez là, je vous lance un truc là. Il y en a qui viennent vous dire, ouais, mais nous on fait partie de l'Église universelle. Ouais, oui, mais il faut que tu t'attaches à une Église. Amen. Et que, restez attachés à votre Église locale. Amen. Amen. Oui, l'Église universelle, oui, mais il y a l'Église locale. Et l'enseignement de la parole de Dieu, c'est l'Église locale. Amen. Je travaille, je fais partie du corps de Christ dans mon église locale. Moi, j'ai une église locale, c'est mon église, c'est l'église de la Seyne-sur-Mer. Vous voyez ? Mais je voulais vous dire quand même que j'ai passé du bon temps. Je n'ai pas toujours été là régulièrement, parce que bon, on avait un planning avec le frère, mais que Dieu vous bénisse et que le nouveau pasteur vous amène encore plus loin dans la présence du Seigneur. C'est ce qu'on a besoin, on n'a pas besoin d'autre chose. Hein. Nous amener plus loin dans la présence du Seigneur, de donner la nourriture aux brebis. Regardez au verset 1er, déjà c'est une preuve. Verset 1er du chapitre 1er. Je ne sais pas si ça s'affiche au fur et à mesure, je ne regarde pas. Hein. C'est bon frère, c'est bon. Regardez, Paul et Timothée, donc ils sont tous les deux serviteurs de Jésus-Christ à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe. Donc ils s'adressent aux saints. Les saints, c'est qui c'est les saints? C'est nous. Amen. Les sanctifiés, c'est l'Église, c'est les chrétiens. Gloire à Dieu pour la sanctification. Amen. Je disais, je crois que c'est vendredi, j'ai prêché à la Seyne-sur-Mer, et je disais que Dieu, je le partage, hein, juste, Dieu a mis cette pensée, je vais méditer là-dessus, sur la communion. La communion, c'est le plus important pour nous avec Dieu. Que notre communion augmente de plus en plus avec Dieu et pour Dieu. Amen. Qu'on ne rentre pas dans des habitudes, Non, Seigneur, je veux que ma communion soit de plus en plus intense avec toi. Et je suis convaincu qu'au plus notre communion sera sérieuse, ça a été dit tout à l'heure dans la lecture de la Sainte-Sainte, avec crainte et avec respect, mais alors on sera en bénédiction, l'Église sera en bénédiction, votre Église sera en bénédiction. Amen, parce qu'on va chercher cette communion. Amen, hein, que Dieu soit béni. Regardez, donc les saints, c'est nous les sanctifiés. Alors il s'adresse aux chrétiens. Ensuite, il dit ceci, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux évêques, apparemment il y avait plusieurs serviteurs de Dieu. L'évêque dans le Nouveau Testament, c'est le pasteur, hein. Il a plusieurs noms, mais qui veut dire la même chose, la même fonction. C'est l'évêque, c'est le berger, c'est le pasteur, et c'est même aussi, quand on lit le texte, quand on décortique, c'est même l'ancien. Il écrit aux anciens, et les anciens, dans la parole de Dieu, c'est les serviteurs de Dieu. C'est les serviteurs de Dieu, ceux qui sont pasteurs locaux. Voilà, allez, je ne vais pas rentrer dans une étude là, mais il s'adresse aux évêques et aux diacres. Les diacres, c'est quoi? Eh bien, c'est tous ceux qui vont faire des tâches à côté. Hein. Tout à l'heure, la sœur, elle s'est bien... Où elle est, la sœur, pour le ménage? Oui. Les membres qui ne se voient pas reçoivent un double honneur. On ne voit pas quand on passe la pièce, hein, la serpillière. Hein? Mais la Bible dit que ces membres-là, Dieu les voit. Moi, je voudrais. C'est bien cette méthode-là. Tiens, je vais dire à mon pasteur, parce que moi, j'ai un pasteur maintenant, je suis à la retraite. Mais je vais dire à mon pasteur, mais tu as qu'à mettre tout le monde. Tu as qu'à mettre tout le monde. C'est vrai que des fois, on fait des listes avec quelques-uns. On est toujours là en train de galérer pour trouver quelqu'un qui passe la serpillière, hein, surtout en période d'été. Mais les membres qui ne se voient pas, ils reçoivent un double honneur. Amen. Et le diaconat, c'est un peu tout ça. Hein, c'est s'occuper de l'Église, etc. Tout ce qui est matériel. Voilà. Donc ça, c'est une preuve déjà. Il n'oublie personne. Amen. Et laissez-moi vous dire que le Seigneur n'oublie personne. Il n'est pas Alzheimer, le Seigneur, lui. Je sais de quoi je parle, hein. Il n'est pas Alzheimer, il n'oublie personne. Il nous aime tous. Regardez un petit peu la suite. Ce que je disais, hein, j'insiste, c'est vraiment l'épître de l'amour. Verset 3, il dit ceci. « Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous. » Amen. C'est ce que je voudrais vous dire. Je garde un bon souvenir de vous. Hein? Je garde un bon souvenir de vous. Et Paul dit ceci. « Ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. » Ne vous arrêtez pas. Continuez. Paul dit, voilà, du premier jour jusqu'à maintenant, jusqu'au bout. Amen. On est des juste boutistes. Amen. On va jusqu'au bout. Et Paul les encourage, on leur dit, voilà, au début, vous avez bien commencé et vous continuez de la même manière. Continuez de la même manière. Paul dit au verset 6, j'élague là aussi, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous, et ça c'est pour vous mes frères, hein. Je ne l'ai pas prêché ailleurs ça, hein. Ouh. C'est pour vous. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Le jour de Jésus-Christ, c'est bientôt, hein. C'est quand le jour de... C'est quand Jésus va revenir. Il va nous rendre parfaits. Alors, dites-moi. Là, je vais vous poser une colle. Qui est parfait ici? Levez la main. Mais il a raison. Moi, je lève la main. On est parfait, pourquoi? On est parfait en Christ quand Dieu le Père nous voit au travers du sacrifice de son Fils. Bien sûr qu'on est imparfait sans Christ, mais avec Christ on est parfait parce que Dieu nous voit au travers de son Fils. Amen. Amen. Et il nous fait grâce. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ta pour ta perfection. Il nous rendra parfaits. Il nous rendra parfaits pour le jour de Jésus-Christ. C'est important, ça. Je ne vais pas prêcher sur le retour de Jésus, mais il nous rendra parfaits pour. Il vaut mieux être parfait pour le jour de Jésus-Christ, non? Parce que ceux qui ne seront pas parfaits, ben, ils resteront. Et les autres, ils seront enlevés. Amen. On ira à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et on va changer. Notre corps sera glorifié. On va prendre un corps céleste. Poum. On n'aura pas besoin d'avion, d'hélicoptère, rien. Hein, d'engin pour quitter la terre. Hein, on va être ça vous dit ça? À qui ça dit ça? Levez la main. Eh oui. On part. Souvent, c'est les plus âgés qui lèvent la main. Moi, je lève les deux mains. Parce qu'on se dit, bon, il nous reste plus grand-chose en bas. Vaut mieux qu'on parte avec le Seigneur. Hein. Amen. Eh oui. Mais en tout cas, on sent l'amour qu'il a pour cette Église. Je continue. Il est juste que je pense ainsi de vous tous, parce que je vous porte. Regardez ce qu'il dit, si c'est pas une déclaration d'amour. Et il dit, verset 7, il est juste que je pense ainsi de vous tous, parce que je vous porte dans mon cœur. On l'a lu tout à l'heure, soit dans mes liens, soit dans la défense et la confirmation de l'Évangile. Vous qui tous participez à la même grâce que moi. Amen. Quelle lettre. Je vous porte dans mon cœur. Voilà. Je peux vous le dire, ça? Je vous porte dans mon cœur. Même je m'en vais, moi, je vais partir. Mais je vous porte dans mon cœur. Amen. Et on va prier pour vous. Et je prierai pour vous pour que Dieu vous bénisse dans toute la suite que vous allez vivre. Amen. En bénédiction. Verset 8. Car Dieu m'est témoin que je vous chéris. Regardez, si ce n'est pas une déclaration, hein? Car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous. Là aussi, aucune exception. Il n'y a pas de favoritisme. Il n'y a pas, oh, plus, je l'aime plus elle que lui ou lui qu'elle. Non. Car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Amen. Et là, je voudrais marquer un temps d'arrêt sur ce verset 9 et 10, parce qu'il y a un petit enseignement qu'on va partager. Verset 9 et verset 10. Il est dit ceci, et il change complètement de registre, là, l'apôtre, inspiré, il dit ceci, et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre âme, pourtant, il les aime, et regardez, ça c'est la richesse, excusez-moi, moi je me régale, c'est la richesse de la parole, il les aime, il les encourage, il leur dit tout, mais dans l'amour de Dieu, il n'y a pas de limite. On est d'accord? Et il dit ceci, et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus. Il aurait pu s'abstenir, mais non, hein, il n'y a pas de limite. Et regardez ce qu'il dit, que votre amour augmente de plus en plus, et c'est là où je vais m'arrêter, en connaissance, en pleine intelligence, et verset 10, pour le discernement des choses les meilleures. Donc il parle de l'amour, il parle de la connaissance, il parle de l'intelligence, et il parle du discernement. Et il dit, il faut que tout cela augmente dans l'amour. Amen. Ça peut être une révélation, parce que je l'ai déjà lu, ce texte. Mais quand même, c'est ressorti, là. J'ai dit, tiens, je vais marquer un temps d'arrêt sur le verset 9 et sur le verset 10, parce que l'amour, je vais essayer d'être rapide aussi, l'amour va nous pousser, bon, l'amour de plus en plus, à une connaissance. Hein? Ensuite à une intelligence et ensuite à un discernement. Mais si cet amour ne grandit pas, la Bible nous enseigne l'amour. Hein? Le plus grand des commandements, Matthieu chapitre 22, quand les hommes sont venus pour accuser Jésus, qu'est-ce que tu dis? Quel est le plus grand commandement? Et Jésus dira, mais tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Là aussi, je le relisais ce matin là en prière. Je dis, mais il faudrait que je reprêche là, sur ces deux versets. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et de ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Frères et sœurs, s'il y a pas, vous l'avez entendu des centaines, des milliers de fois, ça. Mais s'il n'y a pas ça, ben on peut faire tout ce qu'on veut. On peut faire tout ce qu'on veut. Et Paul dit, moi je vous aime, je vous chéris, je vous porte dans mon cœur, mais ma prière, il dit, moi je prie pour vous. Et on va voir que tout est lié là. Si je prie le Seigneur, si je suis un homme de prière, mon amour va augmenter. C'est pas compliqué, hein? C'est pas compliqué avec Dieu. quand on regarde les Écritures et quand on le vit plus ou moins. C'est pas compliqué. Et donc là, il parle de l'amour, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, etc. De plus en plus. Et cette prière avec amour va nous amener dans une connaissance de Dieu. Je suis en train de faire une étude là, que j'apporte à la Sainte-Sur-Mer, sur les dons spirituels. Et dans les dons spirituels, les 9 dons dans 1 Corinthiens chapitre 12, il est question justement du don de la parole de connaissance et du discernement des esprits. Ça fait partie des 3 dons de révélation. Enfin, je ne vais pas vous prêcher sur les dons. Mais quand même, la prière dans l'amour m'amène à la connaissance, pas à ma connaissance. Vous savez qu'il y a une connaissance naturelle. Ça, c'est ce que j'ai dit vendredi. Il y a une connaissance naturelle, c'est ce qu'on a nous. Il y a une connaissance spirituelle de la lecture de la parole de Dieu, de l'étude. Et puis, il y a la parole de connaissance. Ça vient quand Dieu décide de nous la donner. Ça n'a rien à voir avec la connaissance spirituelle. On a tous une connaissance spirituelle. On l'a tous. On lit la parole de Dieu, on écoute la parole de Dieu, on essaye de faire des études, etc. Ça, c'est une connaissance spirituelle. Il y a une connaissance naturelle. Hein, nos facultés, mais il y a aussi cette parole de connaissance. Quand il y a un litige, quand il y a quelque chose, Dieu nous donne cette parole au moment opportun. Ça, c'est la parole de connaissance. Allez, je ferme la parenthèse. Mais cet amour se manifeste, cette connaissance se manifeste dans la prière avec l'amour. Amen. Et là, on développe la connaissance, on développe l'intelligence. Oh, Seigneur. On développe l'intelligence, en connaissance et en pleine intelligence. La prière faite dans l'amour de Dieu, elle nous donne son intelligence. Parce que là aussi, on a une intelligence. Hein ? Et juste une différence entre instruction et intelligence. Instruction, c'est celui qui va apprendre, il est instruit. Et l'intelligence, c'est ce qui va venir naturellement. C'est ce qui vient naturellement, l'intelligence. Et vous savez qu'on peut être très instruit sans être intelligent. Et des fois, il y a des bagages, bac plus 5 avec étage. Mais l'intelligence, c'est le relationnel, c'est la communion, on va dire pour nous, c'est la communion fraternelle. C'est le relationnel, c'est savoir répondre, etc., etc. On peut avoir une très haute instruction sans être intelligent. Et là, le Seigneur dit, mais si tu développes la prière dans l'amour, tu vas connaître la connaissance et je vais te donner mon intelligence. Moi, je suis un âne et j'ai besoin de l'intelligence de Dieu. Amen. Vous pouvez dire amen, hein, ça ne me dérange pas. Et oui, l'intelligence du Seigneur, elle se développe dans la charité, elle se développe dans l'amour, que Dieu soit béni. Et ensuite, il dit ceci, pour le discernement, là encore un des 9 dons spirituels, pour le discernement des choses les meilleures. Et le Seigneur va nous amener à discerner les choses les meilleures. Amen. Et la parole de Dieu dans les dons spirituels, il est question du discernement des esprits. Et là, on va savoir. Je vais pas aller, ça me revient. Il y a la prédication qui me revient là, c'est bon. Le discernement, Dieu va nous montrer hein, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, etc., etc. Allez, je ferme la parenthèse. Mais ça, c'est très important hein, pour le discernement des Amen. La connaissance. Ah oui, j'avais pris quelques versets sur la connaissance et je crois que je te les ai donnés. Éphésiens chapitre 3, verset 19. C'est pour nous montrer que l'amour est lié à la connaissance. Éphésiens 3, 19. Je te l'ai donné, non? Voilà, comme ça m'évite de le chercher. Et connaître l'amour. Écoutez, regarde ce que dit Paul. Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. On voit que c'est lié, hein? L'amour est lié à la connaissance. Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute la connaissance. Amen. Et si j'ai l'amour, Dieu va me donner aussi. Il va me révéler aussi cette connaissance. Ça, je l'ai mis sur mes notes. 1 Corinthiens 8, 1. Je vous fais grâce. 1 Corinthiens 8, 1. La connaissance, elle enfle. Et qu'est-ce qu'il est dit? Et l'amour édifie. Hein? Si on n'a que la connaissance sans la prière de l'amour, zéro. On est zéro. On peut avoir une connaissance énorme, mais ce que Dieu veut voir, c'est l'amour. D'ailleurs, il le dit, et je me suis souvenu de ce texte, dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 2, il est dit ceci, et il est question de l'amour, justement. Quand je parlerai la langue des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne. Quand j'aurai le don de prophétie, quand j'aurai toute la connaissance, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Je prie pour que Dieu me donne cet amour, il me donne cette connaissance, il me donne cette intelligence et il me donne ce discernement. Que Dieu soit béni. Amen. L'intelligence. Et la Bible dit qu'ils ont, l'intelligence, ils ont du zèle sans intelligence. Romains 10, 2. Et que Dieu nous aide. Il est écrit encore dans Éphésiens 4, 18 que leur intelligence est obscurcie. Marc, chapitre 7, verset 18, Jésus leur dira, vous êtes sans intelligence. Vous savez, à ce moment où il dira, c'est pas ce qui rentre dans le corps qui souille, c'est ce qui sort. Et il dira, mais vous êtes encore sans intelligence. Vous avez l'intelligence obscurcie parce que c'est pas ce qui rentre. Mais c'est ce qui sort. Et vous savez, il énumère tout ce qui sort. C'est du cœur de l'homme que sortent les adultères, les mauvaises pensées, etc., etc. Voilà. Et il leur dit, vous êtes sans intelligence. Allez, je vais un peu plus loin. Verset 10. On l'a vu. Hein, il est question du discernement. Et verset 15 à 19, il les avertit. Je peux aller jusqu'à quelle heure, là? Je ne me rappelle plus. non, pas deux heures. Allez, 10 minutes encore jusqu'à la demi, c'est bon? Hein? Allez, on va terminer. Et il les avertit, l'apôtre Paul les a... Ah oui, je voulais vous donner chanter un chant à la fin, j'ai oublié de vous... Oh là là, les chanteurs, ils sont où les chanteurs? Oh là là. Et si je vous donne le chant, essayez de le retrouver dans le DPS, pendant que... C'est jour de joie, jour de victoire, on le connaît. Hein? Vous pouvez me le trouver? Voilà, merci. Allez, je reviens à mon message. Verset 10, verset 15 à 19, il les avertit des mauvais prédicateurs. Il les avertit. Regardez ce qu'il leur dit, verset 15. Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute, mais d'autres le prêchent avec de dispositions bienveillantes. Ça existait déjà, tout ça. Hein? Ça existait déjà. Ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'Évangile, tandis que ceux-là, animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ dans des intentions qui ne sont pas pures et avec la pensée de me susciter quelques afflictions dans mes liens. Qu'importe. Quand même, il ne condamne pas. Hein. Regardez ce qu'il dit. Moi, ça me touche. Hein. C'est la parole. Hein. Qu'importe, de toute manière, que ce soit pour l'apparence ou que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé. Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. Hein? Jésus dira, les disciples, ça me fait penser à ce passage, là la référence elle m'échappe, mais à un moment donné, les disciples vont venir vers Jésus et diront, oh, mais tu vois, ils nous suivent, il y a un groupe qui chasse les démons en ton nom, etc., mais ils ne nous suivent pas, ils ne sont pas avec nous. Vous vous rappelez ce que dira Jésus? Ben, laissez-les, s'ils annoncent mon nom, laissez-les. Hein? Le plus important, c'est qu'ils annoncent. Vous vous rappelez de ce passage? Hein? Et laissez-les, eh bien ce groupe-là, ça fait rien. Lui, le Seigneur, il s'y retrouvera. Hein. Nous, on n'est pas là toujours à faire la guerre avec l'un et avec l'autre. Hein. On veut marcher dans les voies du Seigneur. Donc, il les avertit. Quelques mots. Alors, dans l'épître de Paul aux Philippiens, il y a quelques mots clés. Je vous donne les mots clés. Juste, je les souligne. J'ai pris une autre version aussi. Philippiens chapitre 4, verset 13. Ça, c'est un des mots clés. Les plus importants, après il y a le thème, c'est là qu'on va chanter le chant. Philippiens chapitre 4, verset 13, regardez ce qu'il est dit. Je puis tout. Et ce matin encore, j'ai rajouté sur mon papier, je ne savais plus le mettre, je puis tout par celui qui me fortifie. Mais je me dis, mais Paul est en prison là. Il est en prison. Et il dit, je puis tout par celui qui me fortifie. J'ai marqué dans une autre version. Je vais vous le lire. Chapitre. Voilà. En français courant, il dit ceci. Je peux faire face. Écoutez bien ce qu'il dit. La version français courant. Je peux faire face à toutes les difficultés grâce au Christ qui me donne la force. Je peux faire face à toutes les difficultés. Vous savez, il y a des fois des difficultés. D'ailleurs, il y a un texte où nous dit que il nous éprouvera pas au-delà de nos forces. Vous vous rappelez de ce passage, hein? Mais là, il dit, je peux faire face à toutes les difficultés. Et là, il dit, il peut le dire, hein, il est en prison, mais il dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Un autre verset clé, c'est le chapitre 2, verset 5. Chapitre 2, verset 5. Ça, ce sont des textes qu'on connaît bien. Rendez ma joie parfaite, ayez un même sentiment, un même amour, une même âme et une même pensée. Là, il est question de l'unité. Verset 3. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité, c'est là. Vous savez qu'ensuite, il va parler de l'humilité. Et je vais parler 30 secondes. Que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres ayant vous. Et là, il dépeint le Christ. Il s'est humilié lui-même et il s'est rendu obéissant. Vous savez, moi, je vous apprends rien. Je n'ai pas la prétention de vous apprendre quelque chose. Mais Dieu se sert que des humbles. Même pour nous, en prédication, il faut qu'on fasse attention. Hein? Ce n'est pas parce qu'on va avoir un peu de succès que Dieu nous garde dans l'humilité. Ce que Dieu veut voir dans nos cœurs, c'est l'humilité. Même si j'ai fait des expériences que les autres n'ont pas fait, si j'ai reçu quelque chose que les autres n'ont pas reçu, mais je reste dans l'humilité, sinon c'est la chute. Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Hein, que le Seigneur nous remplisse. Et là, il dépeint le Seigneur dans son humilité. Chapitre 3, verset 14, il dit ceci. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Il est en prison et il dit « je cours ». Ça veut dire qu'il faut rester toujours actif. Amen. On le dit dans le monde séculier, dans le monde... voilà, soyez actifs. Même pour les personnes qui ont un peu plus d'âge, il faut marcher un petit peu, marcher le matin de bonne heure, etc. Même quand, mais il faut être actif. Et il faut être actif surtout pour le Seigneur. Amen. Et c'est ce que je laisse sur votre cœur. Soyez actifs, Paul dit, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste. Que Dieu soit béni. Amen. On a besoin de cette course. Et je termine. Le thème principal, là je vous ai donné les on va le chanter, vous voulez venir les chanteurs? On va le chanter. Oui, dans 10 secondes. Allez, venez.